Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de retrouver tous les passionnés de la vigne et du vin qui écoutent Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004, ce week-end à 20 jours de Noël, émission spéciale consacrée au champagne. Nous sommes accueillis par la célèbre maison Piper Heitzig en direct de Reims et on salue en particulier nos auditeurs parisiens qui nous écoutent dans la capitale sur 99.9. On peut également se retrouver sur la page Instagram Invino Sud Radio. À mes côtés pour accompagner aujourd'hui et demain l'émission, David Cobold. Il faut toujours un anglais dans l'émission, mon cher David. Bonjour David.
Je ne sais pas, mais surtout après ce que je vais dire tout à l'heure, je ne sais pas si vous...
Oui, alors justement, donc vous êtes le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Alors avant de continuer, là, qui a inventé le champagne? Les Français ou les Anglais? Attention à votre réponse, David Cobold.
Je dirais que, alors je vais faire une espèce de cadrage débordement pour dire que le champagne, on peut le définir comme le vin le plus européen d'Europe. Parce qu'il a fallu une collaboration entre trois régions, la Champagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Et je vais m'en expliquer. Le champagne, il faut savoir, au début, il était un vin tranquille, il n'était pas mousseux.
Il n'y avait pas de bulles.
Il n'y avait pas de bulles parce que mécaniquement, c'était impossible de conserver une bulle dans une barrique. À l'époque, le champagne était expédié, comme tous les vins, en barrique, en vrac. Il faut savoir que dans une bulle en champagne, une bouteille de champagne, il y a à peu près 6 bars de pression, donc c'est à peu près l'équivalent d'un pneu de camion. Pour maîtriser ça, il fallait une invention technique, c'est-à-dire un récipient solide et solidement fermé aussi. Et cette chose est arrivée en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, puisque les Anglais avaient interdit la coupe des bois importants, des chênes.
Pour faire des bateaux contre nous, quoi.
Exactement, contre vous et contre tous les
autres. Tout le monde, en fait. En fait, c'est avec les Anglais, personne ne les aime. Hein. Les aimer, maintenant, on vous aime.
Alors, du coup, ils ont été obligés de trouver un autre combustible qui était le charbon. Et le charbon génère des calories d'une manière plus importante que même le bois le plus dur. Et du coup, les bulles qui étaient des imperfections dans les bouteilles ou dans les verres...
Se sont transformées...
Voilà, ont été éliminées et la bouteille plus solide.
Alors, mais, oui, David.
Donc, la bouteille industrielle qui permettait le champagne mousseux d'exister était inventée en Angleterre et les premières mentions historiques de champagne mousseux datent de 1663, wow. C'est-à-dire 65 ans avant l'autorisation de mise en bouteille de champagne
triste,
en France.
Mais merci David Cobold.
Ensuite, oui, David. Très important, est arrivé les finances allemandes.
Oui.
Parce que regardez les noms de cette maison, Heitzig. On peut citer Krug, on peut citer Deutz,
Tidinger.
On peut citer Bollinger,
ou Bollinger. Tétinger, oui.
Ben, tout ça, ce sont des renoms qui sont arrivés en Champagne. Donc, le Champagne, c'est une collaboration entre une matière première française, une technologie anglaise et du pognon allemand.
À mes côtés également, Benoît Collard, qui est le directeur exécutif du Champagne Piper Heitzig. Bonjour Benoît, et puis merci de nous accueillir dans vos murs. Quoi. C'est un vrai bonheur d'être avec vous. David, avant de laisser la parole à Benoît, une petite cartographie de la Champagne, combien d'hectares, quel type de cépage, est-ce qu'il y a des classements en Champagne aussi?
Alors, 34 000 hectares, aujourd'hui quasiment totalement plantés, avec différentes sous-régions. Là, on est au cœur de la partie nord, la montagne de Reims, mais il y a aussi la côte des Blancs, la vallée de la Marne, et puis l'Aube plus au sud, même des parties intermédiaires comme les 16 années. Trois cépages très dominantes, je dirais 99,7% avec un tiers de Pinot Noir, un tiers de Pinot Meunier, un tiers de Chardonnay à la louche. Ça dépend un peu les sous-régions. Et ensuite, quatre cépages très marginales résiduels qui sont le Pinot Gris, le Pinot Blanc, l'Arbane et le Petit Mélier. Mais on en parle très peu.
Ça existe encore.
Et ça existe. Et certains vignerons font des cuvées avec ces cépages-là.
Et il y a des classements de crus ou pas? Est-ce qu'on trouve...
Il y a des classements, on en parle assez peu, mais la Champagne est zonée par village qui ont trois strates. Les grands crus, il y en a de mémoire 17, les premières crus, et puis les crus tout court. Et ça, c'est reflété dans le prix payé au kilo de raisin, historiquement. C'est-à-dire que les crus les plus nobles, considérés comme les meilleurs, les grands crus, sont payés à 100%. Le kilo, je crois que le kilo est aux environs de 7 euros, le kilo. C'est quand même...
Plus que ça, maintenant.
Ah, oui, c'est cher. Ensuite, il y a un décote, donc 100%. 90 à 99%, c'est les ratios des premières crus. Et puis 80 à 90, c'est les crus.
C'est les crus, quoi.
En gros, ça donne une idée de la valeur. Le problème, c'est que ce classement tient compte d'un ensemble de villages, mais pas de la parcelle.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas aussi rigoureux que le classement des parcelles
en Bourgogne. Et les acteurs, David, donc on est au sein d'une grande maison accueillie par Piper Heitzig. Oui. Il y a des grandes maisons, il y a aussi des récoltants, il y a aussi des coopératives.
Bien sûr, il y a les trois strates. Les grandes maisons font la majorité du business à l'export. Oui. Les récoltants, en général, sont plus focalisés sur les marchés locaux, le marché domestique français, par exemple, ou avoisinante. Les caves coopératives pèsent pour à peu près 25% de la production totale de la champagne, soit avec des marques propres, soit avec des marques, marques d'acheteurs, par exemple. Je ne sais pas, Carrefour ou Auchan vont s'adresser à une cave coopérative pour avoir une marque veuve, machin truc, qui n'a jamais existé. Donc ça, c'est une autre partie du business. Je pense que ce qu'il faut dire comme exemplaire en Champagne, c'est la gestion collaborative, coopérative entre les différents acteurs.
Oui.
Puisque le comité Champagne CVC est co-géré par un représentant des vignerons et un représentant des maisons pour respecter la parité. Et ça, c'est assez exemplaire. Et ils ont aussi mis en place des politiques à long terme de la gestion des stocks en Champagne, qui est aussi un exemple pour les autres.
Il y a une chaîne de valeur qui est pensée intelligente.
Il y a une chaîne de valeur et une vision à long terme.
Merci David. Benoît, si je vous dis 1785, vous pensez à qui, à quoi ?
Date importante pour nous, puisque c'est la création de la maison. L'arrivée de Florent-Louis Heitzig, le fondateur, à 23 ans, date de 1778. Jeune entrepreneur rhénan, effectivement, en route vers Versailles, et qui tombe amoureux d'Agathe, une jeune champenoise de 18 ans. Et c'est ce qui l'amène à rester en Champagne, à créer sa maison. Il tombe amoureux du champagne et il décide d'en faire une véritable activité. Et c'est la date de création de la maison.
Sans amour, il n'y aura pas de champagne.
Ah, nous sommes d'accord. Bon, il y a quand même beaucoup de veuves. Ça tempère un peu les choses. Qui a accès à ça? Appartient à qui aujourd'hui, Piper, mon cher Benoît?
Alors, la maison de champagne Piper Heitzig est encore indépendante, familiale. Elle appartient à Christopher Descours.
D'accord.
Donc, c'est une maison française et qui est fière de cette indépendance.
Alors, on a l'impression que c'est Piper a été réveillé, là. Donc, c'était quelque part une belle endormie. Aujourd'hui, le positionnement, on parlera tout à l'heure du style des vins, mais le positionnement de la maison, quel est-il ?
Alors, la maison de champagne Piper Heitzig a toujours été un peu synonyme d'audace, d'esprit pionnier. On parle de Florent Louis, bien évidemment. On peut parler, pendant la Seconde Guerre mondiale, du marquis d'Hollande, qui dirigeait cette maison, qui a été le pilote le plus âgé des forces françaises libres et qui est décédé au combat en 1944. Et puis, cette histoire, cet esprit d'audace, il s'est fait dans l'œnologie. Et c'est véritablement cet état d'esprit qui nous amène peut-être à un réveil, mais surtout à un développement qui se poursuit. Et c'est une activité qui est véritablement tournée vers l'international, vers la France bien évidemment, mais aussi vers l'international. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a choisi d'avoir un chef de cave relativement jeune et parcours international
déjà champion du monde. Et alors, justement, au niveau international, le premier pays hors de France, me dites pas que c'est l'Angleterre quand même.
Presque.
Ah, presque. L'Irlande, attends, je plaisante.
Non, autre terre du rugby, c'est l'Australie.
C'est l'Australie.
Oui, Piper Heitzig a à peu près une bouteille sur deux qui est vendue dans un pays anglo-saxon.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc, incluant l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada. Je vais m'arrêter là parce que sinon, notre ami David va recréer le Commonwealth et l'Empire britannique. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est une maison particulièrement internationale et qui voit loin.
Et la Chine, vous êtes présent également en Chine, parce que tout le monde parle de la Chine, là, c'est...
Alors, nous sommes présents en Chine. C'est un pays particulièrement intéressant pour le champagne qui s'ouvre, une consommation qui se développe. Ça n'est pas dans la culture des Chinois qui sont habituellement plutôt orientés vers les spiritueux.
Et les vins rouges.
Et les vins rouges.
Et qui parfois boivent des vins rouges la nuit et qui boivent des spiritueux à table.
Oui, on est quand même très loin de la modération là.
Oui. Le champagne y trouve sa place de plus en plus, et notamment avec l'émergence et le poids et le pouvoir des femmes dans l'univers économique.
Merci en tout cas Benoît, on va marquer une première petite pause et après on se retrouve pour continuer à parler de champagne, de culture de la vigne, de vinification. On accueillera aussi le meilleur chef de cave mondial. Petite pause et à tout de suite au sein de la maison Piper Heitzig.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour à la Villa Piper Heitzig pour cette émission spéciale champagne délocalisée à Reims. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end et vous pouvez réagir sur notre compte, notamment Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui, maintenant, on a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Emilien Boutilla, qui est chef de cave de cette maison Piper Heitzig. Bonjour Emilien.
Bonjour.
Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge alors?
34 ans.
34 ans, vous êtes diplômé de l'agro, c'est ça?
Ouais, tout à fait. J'ai étudié, je suis né ici en Champagne, mais j'ai choisi de m'exporter, m'expatrier. Donc j'ai étudié dans le sud de la France, au soleil, à Montpellier. Montpellier.
À Montpellier, ouais.
Voilà, où j'ai étudié et l'œnologie et aussi l'agronomie. Donc, je suis diplômé œnologue, mais également ingénieur agronome.
Bon, et le vin, les bulles, tout ça, c'est dans votre génétique, hein, parce qu'il y a papa, il y a peut-être papy et tout compagnie, non?
Ouais, bah oui, plus que ça. On a parlé tout à l'heure de 1785. L'histoire de ma famille remonte en 1765. Donc, quelque part, l'histoire des
gouttières
dans
hein.
le Champagne est même antérieure à l'histoire des Allemands et de Piper Heidsieck. Donc, en effet, je suis né dans la marmite, quelque part, puisque mon père est vigneron et avant lui, toute la famille, toute la lignée était déjà vigneronne depuis très très longtemps.
On vous a aperçu du côté de Château Margaux il y a quelques années, vous faisiez quoi là-bas?
J'allais me promener aussi. Je suis heureux d'être né en Champagne, mais j'avais envie de découvrir aussi d'autres façons de voir le vin, d'autres façons de cultiver la vigne. Donc j'ai choisi de m'exporter pour étudier et également pour travailler. Donc j'ai travaillé en effet à Châteauneuf-du-Pape, puis à Château Margaux en 2009. Et on a fait de très bons vins là-bas avec mes collègues sur place.
Alors Émilien, vous avez atteint votre nirvana professionnel en rejoignant Piper en 2018, c'est ça?
On peut dire ça.
Absolument. Alors c'est quoi votre job? Un chef de cave, ça fait quoi?
C'est un métier de passion déjà. J'ai la chance de travailler de ma passion, donc ça c'est une chance inouïe et un petit peu de responsabilité aussi puisqu'on est quelque part un peu le garant du style d'une maison de champagne, donc un petit peu de responsabilité et de pression à ce niveau-là, mais ça reste du plaisir. Et on a des journées qui sont très diversifiées en fait. J'ai à la fois.
Vous bossez qu'à mois par an pendant les vendanges, j'aurais du temps. Seychelles, Bahamas,
C'est un peu plus complexe que ça quand même. Il y a toute la partie œnologie. En effet, on est garant du style maison, donc il y a toute la réalisation des assemblages qui est clé, bien sûr. Tout démarre au moment des vendanges, mais il y a aussi toute la partie viticole, que ce soit sur le vignoble maison ou l'accompagnement de nos partenaires vignerons partout en Champagne. On a plus de 250 partenaires vignerons partout en Champagne, et mon rôle, c'est aussi de les accompagner dans la culture des raisins pour produire des raisins de qualité, de manière durable et qui collent également au style de la maison. Et puis le dernier volet, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, parler de ce qu'on fait en France et dans le monde auprès de journalistes, de nos consommateurs, de restaurateurs, de sommeliers. Donc voilà, c'est tout ce qui gravite finalement autour de.
Et vous en parlez très bien. Il y a beaucoup de jeunes comme vous, parce que c'est quand même une super responsabilité, chef de cave. Si vous plantez là, c'est ça va pas du tout quoi.
Ah ben non, mais ça se passe bien.
Ouais.
Ça n'arrivera pas.
Il y a Benoît qui veille. Mais il y a beaucoup de jeunes, de gens qui ont moins de 40 ans, on va dire comme vous.
De plus en plus, bien sûr. Il y a un renouvellement générationnel actuellement en Champagne et pour le meilleur. La Champagne, ça a toujours été ça. C'est le temps, hein. C'est le temps long.
Qu'est-ce que vous avez contre les vieux?
David.
Et Cabal, t'as connu la guerre de 1800. Non, je plaisante. Et donc, il y a aussi pas mal de femmes c'est une chance également pour le vignoble.
Tout à fait, des jeunes, des moins jeunes, à l'image de notre comité œnologique. Hein, je suis seul aujourd'hui, mais il y a avec moi toute une équipe d'œnologues.
On a plus 5 micros, 6 micros. Hein, donc, oui.
Et on est en effet des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et c'est cette diversité qui permet aussi d'avoir une continuité au fil des années, puisque l'histoire de la maison a plus de 250 ans, et on est vraiment dans cette idée de continuité et de passage de témoins d'une
tradition,
génération.
Innovation aussi en même temps. Benoît Collard, est-ce que c'est compliqué? Il y a une guerre des talents pour les chefs de cave. Vous voulez piquer entre maisons parce que c'est quand même précieux.
Il y a un
garçon comme Emilien encore.
Alors, le monde de la Champagne est un monde où on se connaît tous et les talents, effectivement, sont repérés assez rapidement par les différentes maisons.
Mais il y a un respect, c'est un marché un peu spécial.
Tout est toujours dans le respect, ce qui est surtout important, et c'est la raison pour laquelle Emilien a été finalement un choix évident, c'est que pour Piper Heidsieck, je parlais tout à l'heure d'esprit pionnier, pour nous, l'importance d'avoir un chef de cave qui a voyagé et qui a travaillé de la Nouvelle-Zélande au Chili et effectivement de Châteauneuf-du-Pape jusqu'en Champagne, qui connaît la Champagne, qui connaît la vigne et qui connaît aussi l'œnologie, c'était particulièrement important et c'est ce qui en fait une pépite en Champagne, parce que finalement...
Le patron, il va demander d'augmentation, une pépite. Mais
finalement, c'est vrai que en Champagne, on a souvent eu des mercatos très régionaux, et c'est un plaisir d'avoir cette expertise-là dans la maison.
Ouais. Alors, dites-nous, Emilien, donc bravo, hein, vous avez été meilleur chef de cave du monde, hein, cette année, en 2021.
J'ai eu la chance d'être récompensé par l'IWC, International Wine Challenge.
C'était quoi, le 37e concours, c'est ça?
Alors, je sais plus, mais je sais surtout que je succède à quelqu'un d'autre qui a été 8 fois élu meilleur chef de cave de l'année, et c'est mon prédécesseur ici à Piper Heidsieck, Régis Camus. Mmh. Donc, Benoît s'est empressé de me féliciter, mais aussitôt de me dire... Tu sais que Régis en a 8, donc faut continuer.
Faut continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais il a raison.
La bienveillance, la bienveillance.
Alors, comment il se passe ce concours? Donc, c'est, voilà, il y a, toutes les maisons sont présélectionnées. C'est un choix d'un jury. Comment ça se passe?
Bah, bien sûr. En fait, c'est, comme il y a beaucoup de concours internationaux dans le monde, l'IWC fait partie des plus grands et des plus réputés. On présente nos champagnes là-bas qui sont dégustées à l'aveugle. Et c'est une combinaison entre les résultats des champagnes Piper Heidsieck lors de cette dégustation à l'aveugle et puis un ensemble du positionnement de la maison, du chemin qui est parcouru par la maison et puis de la personnalité du chef de cave. Donc,
et c'est voilà. Uniquement entre pairs, il n'y a pas d'autres bulles issues de d'autres régions. Là, c'est stricto sensus, on reste sur le.
Pour être tout à fait exact, le titre est meilleur chef de. Enfin, pas meilleur chef de cave, c'est Sparkling Winemaker of the Year. Donc, toutes les bulles du monde sont représentées.
Quoi. Un David, donc ça veut dire que c'est encore plus crédible.
C'est l'ensemble des bulles, oui, dégustées dans ce concours, qui est effectivement un concours très important.
Alors, on parle de votre job, là, peut-être pas en ce moment, mais enfin, parce que là, il fait très très beau, comme toujours à Reims, il y a un microclimat, là, en 39.2, là, j'annonce la météo, là, pour tout à l'heure. Votre job, on va le préciser, ça commence par la vigne, pour élaborer un bon champagne, c'est le raisin in fine. Votre philosophie en matière de conduite de la vigne, tout à l'heure, on va parler de ce sujet également avec David.
Mais ça a commencé de très tôt, on a parlé tout à l'heure de Château Margaux en 2009, là-bas, j'ai étudié justement viticulture biologique, biodynamique, et conventionnel. Donc depuis toujours, je me suis intéressé à la culture de la vigne et aussi à la culture de la vigne de manière durable. C'est quelque chose qui est très important pour moi, très important pour la maison. Notre vignoble est déjà certifié viticulture durable en Champagne depuis 2015. Nos partenaires vignerons se convertissent de plus en plus et presque exponentiel. Et donc ces enjeux-là, ces enjeux de développement durable, de viticulture durable sont clés pour nous. Et tout commence à la vigne. Vous l'avez dit, on ne fait pas de grands vins, de grands champagnes sans des raisins d'exception. Et j'en profite ici pour remercier tous nos partenaires vignerons qui au quotidien, surtout cette année 2021 est une année très compliquée pour nombreux de nos partenaires. Se donne corps et âme pour produire des raisins d'exception.
Le climat de la Champagne, vous avez des risques, quoi. Il y a des vrais risques climataux, il y a plein de choses, quoi. Donc,
on était il y a quelques années à la limite septentrionale de la culture de la vigne. Nos collègues anglais ont repoussé cette limite, et aujourd'hui on est dans un contexte septentrional avec de l'humidité, des précipitations. Donc c'est pas le contexte le plus facile pour cultiver la vigne, mais c'est aussi ce qui fait la magie du terroir champenois. Entre le sol, le terroir et ce climat nous permet de produire des raisins qui permettent d'avoir des champagnes avec cette fraîcheur et cette élégance qui nous caractérise.
David Cobold, on parle avec Émilien de développement durable, de viticulture durable. Alors, le consommateur entend parler de vins vegan, bio, conventionnel. On s'y paume un peu là. Comment on peut expliquer les choses de façon très simple?
Oui, je vais tâcher de le faire, mais d'abord je vais vous donner des chiffres parce que j'ai obtenu des chiffres sur les performances en champagne dans la manière de réduction des entrants dans le sol et dans les vins. C'est assez impressionnant parce que depuis 2000, on est fin 2021, moins 50% sur les produits phytosanitaires, c'est des chiffres globaux sur le champagne officiel, moins 50% d'engrais azotés et 100% d'effluves viticoles recyclées. Donc je trouve qu'on
ça va dans le bon sens.
D'un an, c'est assez impressionnant comme réduction. Alors pour répondre à votre question, Alain, donc les différents labels, il y a pléthore de labels et il faut dire que le consommateur est totalement paumé devant tout ça.
Donc, d'où l'intérêt d'une vidéo Sud Radio en direct de Reims.
On va essayer d'expliquer deux ou trois choses, mais je peux pas les aborder tous parce qu'il y en a tellement. Je vais peut-être écarter assez rapidement par un blocage le végan parce que ça concerne assez peu de monde. Et d'ailleurs, des gens qui ne mangent rien ou qui ne touchent pas à des produits animaux. Il faudra un jour qu'on m'explique comment on empêche les moucherons, les moustiques de rentrer dans une cuve. Ça, c'est une autre affaire.
Il faut faire des toutes petites cuves.
Après, j'ai aussi vu, il y a des incohérences. Il y a des gens qui mettent vin végan sur les étiquettes. C'est du surfage sur une mini vague.
Moi, j'avais vu, l'autre jour, une bouteille de vin vegan. Et derrière, il y a marqué en contre-étiquette, à consommer, à conseiller avec une bonne côte de bœuf.
C'est ça, avec des grillades, effectivement. Ouais, je pense que c'est des grillades de poivre.
On va finir par citer ce vigneron parce que c'est agaçant. Ouais. Allez-y, David.
Oui. Alors. L'ensemble des labels. Je vais parler du bio d'abord parce que je pense que c'est le label qui a le vent en poupe. On estime qu'il y a à peu près 15% du vignoble français en bio ou en conversion. Il faut 3 ans pour être converti. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce chiffre va résister à l'énorme pression de mildiou en 2019, mais c'est quand même quelque chose qui a le vent en poupe. Et
le mildiou, David, c'est une maladie. Une
maladie cryptogamique qui attaque le raisin, enfin la vigne et le raisin. L'oïdium aussi. Ces vins sont très demandés à l'export comme en France. Les gens pensent que c'est une sorte d'assurance touriste d'acheter bio. On sait que les choses sont plus complexes que ça. Donc le bio, ça fonctionne. Il y a un surcoût. Après, il y a une autre sous-catégorie bio qui s'appelle biodynamique, qui est un bio un peu plus extrême auquel on rajoute certaines croyances, notamment le cycle lunaire, parfois la planète Saturne, ça c'est un peu moins crédible, et voir des elfes qui sont en dessous de la Terre si on va très loin, donc parfois c'est un peu ésotérique. Alors ça, ça coûte encore plus cher parce que c'est plus exigeant, ça demande un engagement des vignerons, des gens qui travaillent la vigne. Et il y a un impact sur le prix de la bouteille aussi, donc c'est réservé à des vins plutôt plus chers.
Et tout ça, c'est marqué sur l'étiquette, David,
pour le... Biodynamique, ce sont des certifications. D'accord. Il faut obtenir de cette... Il y a différents organismes certifiants. Pour le bio, il y a un organisme européen. Il y a deux organismes en France. Pareil pour le biodynamie. Après, vous avez des choses de viticulture durable, différents labels. Peut-être le plus connu, c'est Terra Vitis, où là, c'est une viticulture qui respecte l'environnement. Vous avez aussi l'HVE3 qui est soutenu par l'État français, par le gouvernement, où on va mesurer l'ensemble de l'écosystème d'une propriété. C'est pas simplement la vigne et la vinification, c'est aussi l'ensemble du domaine, c'est-à-dire quel est l'état des nappes phréatiques, est-ce qu'il y a des chauves-souris, des oiseaux, des prédateurs naturels qui empêchent d'utiliser trop de produits difficiles pour la santé et pour la vie des sols. Donc, je pense que tout est fait partie d'un ensemble, d'un mouvement nécessaire et vertueux vers moins de produits sur la terre, moins de produits pour l'homme et une viticulture plus durable pour tout le monde.
Benoît, vous réagissez comment au propos de David? D'abord, là maintenant, on l'a compris, merci David.
Tout à fait aligné, et c'est vrai que cette démarche vers une viticulture durable, comme Emilien le disait, nous, notre vignoble propre est déjà certifié viticulture durable en Champagne et HVE3 depuis 2015, mais il faut aller plus loin, et la volonté de notre maison, c'est d'avoir l'ensemble de nos approvisionnements et donc de nos partenaires vignerons certifiés très rapidement pour que justement nous nous engagions de manière collective vers cette démarche-là. Et c'est ce qui nous a amené aussi à investir par exemple dans une start-up champenoise, Vitibot, qui produit et qui a conçu un tracteur enjambeur autonome et solaire qui doit permettre justement à ces petits vignerons, à des pluriactifs qui n'ont pas le temps de travailler la vigne de manière durable habituellement, mais justement de travailler par une logique de co-farming, c'est-à-dire de travail avec leurs voisins et d'investissement avec leurs voisins.
Ça s'est créé en Champagne.
Et cette start-up champenoise, Vitibot, produit donc ce tracteur qui s'appelle Bacchus. Et ça, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été une des premières maisons à investir.
Mais ça coûte. On va faire la pub jusqu'au bout.
Le coût est d'environ... c'est le coût d'un tracteur enjambeur à peu près traditionnel. Je crois qu'on est aux alentours de, je vais pas dire de bêtises, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Bon, on n'est pas en surprise. Emilien, dites-nous, alors, est-ce que vous discutez avec vos pairs? Parce que là, Benoît parle de l'esprit collectif également. Il y a des réunions entre chefs de cave, petite, moyenne, grande maison, en disant qu'est-ce qu'on fait pour être encore plus durable, plus propre, plus RSE.
Sur les aspects techniques, bien sûr, il y a le CIVC, le comité champagne qui est là pour encadrer tout ça, mais il y a beaucoup d'échanges, on marche tous dans la même direction, et quelque chose d'important aussi, c'est de dire que ces certifications ne sont pas une finalité en soi. Nous, on encourage nos vignerons surtout à s'engager dans une démarche de progrès continu. Donc on est déjà certifié en effet VDC depuis 2015, mais nous on continue sur notre vignoble à aller plus loin. Aujourd'hui on a banni les herbicides, on a ramené de la biodiversité autour de nos vignobles.
Ça c'est vous qui l'avez fait ou ça a été fait par le...
Depuis 2015 en fait, chaque année on progresse, on va de plus en plus loin, on réduit la quantité d'intrants utilisés, on ramène comme j'ai dit la biodiversité en plantant des haies, on a encore planté plus de 300 arbustes cette année autour de notre vignoble pour ramener de la biodiversité, des insectes, de la vie dans nos vignobles. Donc c'est vraiment réduction des intrants, des amendements organiques, ramener de la biodiversité dans les vignobles, la gestion aussi des sous-produits, des déchets. Donc c'est vraiment une vision systémique et d'amélioration continue. Chaque année, faire mieux, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc sur notre vignoble, par exemple, nous, on expérimente des techniques biologiques aujourd'hui pour voir si on peut encore aller plus loin dans cette démarche.
Vous avez des chevaux ou pas? Parce qu'un tracteur, c'est bien, solaire. Il n'y a pas des animaux, tout ça, qui, non?
Non, aujourd'hui, on a des petites abeilles. On a des petites abeilles. Produisent du miel sur notre vignoble de Courma, mais qui participent à une lutte plus naturelle contre les ravageurs de la vigne, mais pas de chevaux. Non.
Et pour terminer, ce millésime 2021, là, il va être comment, là? Dites-nous, là.
Ah ben, on est en plein dans les dégustations vins clairs, et on s'en sort bien. Les qualités des
vins clairs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulles encore, non?
Tout à fait, c'est ça. C'est le terme qu'on donne aux vins tranquilles, après fermentation alcoolique et malolactique quand on l'a fait, ça devient technique. Mais en tout cas, c'est des vins qui n'ont pas encore des bulles. Ce sont les bases que je vais pouvoir utiliser pour réaliser les assemblages.
c'est millésimable ou pas, à votre avis?
Alors, bonne question. Un des enjeux, c'est qu'on a des rendements qui sont très faibles cette année.
Combien
en Champagne.
Vous avez
bon, à l'échelle de la Champagne, on est entre 6 et 7 000 kilos par hectare.
D'accord.
Ce qui est quasiment allez, un tiers de moins que ce qu'on attendait, ou un tiers de moins que l'on a. L'enjeu surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aléas climatiques cette année. On a tout eu, selon les régions, des gelées printanières, de la grêle, des tempêtes de pluie qui ont fait exploser justement.
Y compris en Champagne, vous avez tout ça.
Ouais, tout ça en Champagne. Mmh. Donc certains secteurs ont été vraiment très touchés et certains de nos vignerons ont été vraiment sur le front, mais ont perdu énormément de leur récolte. Pour autant, la récolte est faible, mais elle est de qualité. Les raisins et les vins qu'on déguste aujourd'hui sont de bonne facture, avec un bon équilibre.
Donc à suivre. Merci beaucoup Emilien Boutillat, merci également à Benoît Collard, David Cobol, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément, en tout cas on l'espère, chaque week-end. Un clin à Justine qui a préparé cette émission, qui est venue spécialement à Reims pour son plus grand bonheur. Sébastien également pour la partie technique. Fin de ce numéro pétillant en direct de cette maison Piper Heitzig à Reims. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, le compte Instagram Invino. Et on va se retrouver demain à 12h30 pour un numéro spécial toujours en Champagne. Un grand plaisir d'accueillir l'excellent maire de Reims, Arde Robinet. On parlera également de cocktails, de bonnes recettes pour Noël avec Nicolas Papavero. Bref, on va se régaler d'ici là. Excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, en particulier les champenois, et puis respectez la plus grande des modérations. Salut, à demain.
Sud Radio, Invino.